Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Vous y croyez que c'est la Saint-Daniel aujourd'hui? Alors bonne fête à tous les Daniels, mais on ne va pas du tout parler de Daniel. On part au musée avec vous, Stéphane Covio, et nous allons au 100 bis rue d'Assas, à quelques pas de l'université de droit, où se trouve le musée Zadkine. Et aussi, Zadkine était né en 1888, et puis il arrive en France en 1910, et en 1912, il s'installe 114 rue de Vaugirard, plus près du carrefour Vavin et du café de la Rotonde, champ magnétique de l'art moderne, où il croise Matisse, Picasso, il approche Apollinaire, rencontre Modigliani, et tout ça fait une bonne bande de potes, et surtout c'est extrêmement stimulant d'être dans ce quartier-là pour pouvoir travailler et avancer. Et alors il va s'installer rue d'Assas, après son mariage, dans une petite maison charmante au fond de la cour, et c'est là que nous allons pour visiter une exposition consacrée à Shana Orloff, dont l'atelier musée n'est pas loin d'ailleurs, puisqu'elle était 7 bis Villa Seurat dans le 14e arrondissement. Je me trompe?
Non, vous avez tout à fait raison.
Voilà. Éric Justman, qui est là pour nous corriger, pour nous dire exactement. Racontez-nous un peu comment est née cette exposition, Éric Justman.
Oh, écoutez, la...
Parce qu'il n'y a pas eu de rétrospective avant la grande qui était au musée d'art moderne, où je me trompe.
Voilà, alors... En fait, depuis les années 70, il n'y a pas eu de grande rétrospective Shana Orloff. Et vraiment, c'est quelque chose qui manquait. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on n'arrivait pas à avoir de grandes expositions qu'on avait, nous, décidé d'ouvrir le week-end aux particuliers sur réservation pour faire visiter les ateliers, puisque les musées ne voulaient pas faire d'expositions importantes sur Shana Orloff. Et puis, il y a 2 ans, donc... Cécilie Champy, qui est directrice du musée Zadkine, est venue me voir et m'a proposé ce projet. Et évidemment, j'étais complètement ravi qu'on puisse faire cette exposition dans ce musée. D'autant plus que la sculpture de Shana Orloff, c'est une sculpture intime. Et au fond, les surfaces au musée Zadkine se prêtent assez bien à l'exposition des œuvres de Shana Orloff.
Mais oui, parce que ce sont des petites pièces. Et il y a souvent de grosses, des statues assez importantes, mais elles prennent très très bien l'espace. Elles sont complètement. On a l'impression qu'elles ont été créées là.
Oui, non, mais il y a eu un travail de scénographie importante.
Et oui. Puis, avec les blancs mats, les blancs vernis sur les socles, sur les commodes, tout ça, c'est très réussi.
Voilà, donc c'est aussi un travail à la fois de Cécilie Champy, de Pauline Créteur, et puis évidemment des scénographes qu'on œuvrait.
Alors Shana Orloff n'a jamais eu ni maître ni élève, elle occupe une place majeure dans l'histoire de l'art, elle expérimente toutes sortes de matériaux, la terre cuite, le bois, le bronze, le ciment, le plâtre, et elle s'est imposée comme l'une des plus grandes sculptrices et portraitrices de son siècle. Mais alors, comment l'avez-vous rencontrée, Stéphane Covio?
Eh bien, je l'ai rencontré chez elle, grâce à Eric, qui a ouvert son musée tout à l'heure. Alors, pour nos auditeurs, quand même, Eric Justman est le petit-fils de Shana Orloff.
Mais oui.
Hein, et il habite dans les lieux. C'est formidable quand on va là-bas, parce qu'on est reçu par la famille. Donc, c'est vraiment aussi une rencontre très intime avec les œuvres de Shana Orloff. Vous parliez de la diversité des matériaux. Ça, moi, je suis très sensible à ça. Effectivement, on voit de la pierre, on voit du bois, on voit du bronze. On voit des plâtres, qui sont des plâtres qui ont servi à réaliser les moules pour les bronzes. On a une très belle scénographie. Il y a 5 thèmes, si ma mémoire est bonne. On commence avec
les portraits,
puis on a la figure féminine, et puis on a les maternités. Moi, je suis très sensible à la salle sur les maternités.
Très belle.
On a toutes aussi des salles sur les animaux. Et puis quelque chose qui comporte, qui rassemble des œuvres d'après-guerre, après, donc dans un esprit très différent, avec ce qui va concerner le retour après l'exil et les camps de concentration. Et puis une sculpture monumentale, qui est aussi une maternité, qui a été installée, je crois, dans un kibboutz.
Tout à fait. Alors je rajouterais un 6e espace, qui est le jardin,
oui,
où on peut voir à la fois des animaux, mais aussi des enfants. Shana Orloff... a l'habitude de faire des enfants sages. Et on en voit 2 qui sont là. J'ajouterais qu'il y en a un 3e actuellement aussi présenté au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, autour d'une exposition qui s'appelle « L'enfant Didi, itinéraire d'une œuvre spoliée ». Et voilà, ça fait un ensemble à voir pour nos auditeurs.
Alors, puisqu'on parle de maternité, donc votre père était né en 1918.
Absolument.
Et c'est le fils unique
De Shana.
De oui. Shana, de Shana Orloff. Et elle dit d'ailleurs que, j'ai lu ça, elle dit que la maternité, et c'est comme l'art pour elle, c'est-à-dire que c'était absolument obligatoire. Et elle avait besoin de se révéler entièrement femme par sa maternité, ou entièrement artiste par sa maternité et entièrement femme par son art.
En fait, ce qui est...
Elle mêle les deux sujets.
Voilà, ce qui est assez étonnant dans Shana Orloff, c'est qu'elle est femme, elle est mère, elle est artiste, et elle mêle tout ça, en fait. Oui. Quand elle fait une tournée aux États-Unis, elle emmène son fils. Et son fils participe à beaucoup de repas, de dîners, même très jeune. Ça devait peut-être un peu le barber au départ, mais en tout cas, non, elle est là, elle veut qu'il soit là aussi. Et ça se ressent dans ces sculptures, parce qu'on a beaucoup de maternité où on voit la fusion entre la femme et l'enfant. En fait, l'enfant a l'air presque toujours incrusté dans la mère.
Et il y a une sculpture étonnante, elle est blanche, où on voit juste l'enfant qui semble tomber. Et elle est sur la partie, le mur de droite, elle est à gauche, voilà, dans la salle des maternités. Et cette sculpture m'a saisi. Parce qu'on sent toute la fragilité de l'enfant, mais tout le regard plein d'amour de l'artiste, Stéphane.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'est une statue de Zadkine, justement celle-là. Alors, vous avez bien fait de la remarquer, parce qu'elle est très très belle.
Très très belle.
C'est un bronze, un marbre,
Ouais.
Avec une taille assez minimale. Il y a un petit côté cubiste qu'on voit chez Zadkine, dans une stylisation. Elle est franchement absolument magnifique, parce qu'il joue avec la pierre. Il y a des endroits où la pierre est lisse,
oui.
Avec un travail qui est en face.
Et très brut en bas à gauche, c'est
exactement.
Incroyable.
Il y a des endroits où, au contraire, elle est, comme vous dites, très brute, et ça tombe pile à l'endroit où les chevelures sont traitées, par exemple, ou des endroits où des membres sont coupés, volontairement d'ailleurs, ou tout simplement parce qu'il n'y avait pas de pierre à cet endroit-là. Et je me suis demandé, je n'ai pas la réponse pour l'instant, si la pierre en plus avait été teintée dans ces endroits-là, mais il y a un jeu très très intéressant entre les parties brutes subsistantes et les parties nettes incisées dans la pierre.
Donc ça, c'est à voir dans la salle des maternités.
Absolument.
Puisqu'on parlait un peu de famille, Eric Justman, je voulais quand même préciser pour nos auditeurs que dans la tragédie du 7 octobre 2023, vous avez eu trois membres de la famille de Shana Orloff qui ont été tués, et puis huit qui ont été, sept autres membres de la famille et trois enfants qui ont été retenus en otage.
Tout à fait. Alors heureusement, six des sept otages ont pu revenir maintenant. Ils sont en bonne santé, ils ont été traités d'une manière, on peut dire, correcte, en tout cas par rapport à d'autres témoignages qu'on a pu avoir. Il reste un homme qui est... et qui est encore pris en otage.
Et alors, il y a une statue.
Et il y a une statue qui s'appelle Les Inséparables, qui appartenait à ma cousine. Et alors, sa maison a été détruite, mais on sait que cette sculpture a été emportée, parce que si la sculpture avait été détruite aussi, on aurait vu des traces de bronze au sol, ce qu'on n'a pas vu. Donc, cette sculpture est quelque part à Gaza, aujourd'hui.
C'est très symbolique.
Oui, parce qu'évidemment, ça rappelle... Les pogroms, et notamment ceux de 1905, où la famille de Shana Orloff quitte l'Ukraine pour la Palestine. Oui, bien sûr. Et puis,
Tout ça est très douloureux, mais ce que je trouve très symbolique, c'est le nom de cette statue, Les Inséparables.
Oui, alors écoutez, c'est deux oiseaux qui sont en fusion. Et d'ailleurs, c'est une sculpture dont on peut voir un autre exemplaire au musée Zadkine aussi.
En ce moment,
dans la section animaux.
Et alors moi, j'aurais vraiment des questions à vous poser, Eric, sur le choix de la part de Shana Orloff de la sculpture animalière. Parce que, alors c'est une grande portraitiste, il y a les figures féminines, etc., les maternités, et il y a les animaux. Comment ça se fait est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle a sculpté des animaux?
Alors d'abord, quelquefois, les animaux sont des portraits.
Oui.
Et après, écoutez, Shana Orloff avait l'habitude, une fois par semaine, d'aller au Louvre et une fois par mois, d'aller au zoo. Et souvent, elle regarde ses animaux pour leur design, mais quelquefois aussi, c'est des animaux symboliques. Hein. Par exemple, en 39, elle fait une sauterelle, qui est d'ailleurs au musée Zadkine. Et cette sauterelle, c'est bien sûr le fléau biblique, mais c'est aussi une machine de guerre. À l'atelier, on a aussi une œuvre qui s'appelle « Guerre et paix », où d'ailleurs, la paix a l'air d'être très mal partie. Les animaux, oui, elles s'en servent aussi comme des symboles forts.
Quel est le souvenir que vous avez d'elle ?
Écoutez, c'était une femme très sereine, très énergique, très positive aussi, toujours tournée vers l'avant. Mais je pense de plus en plus que tous les gens qui ont traversé des pogroms et qui ont survécu, au fond, ils ont acquis une force dans la vie et peuvent traverser n'importe quoi. Vous savez qu'en 1943, son atelier va être pillé, elle va échapper à la rafle du Veldiv et va se réfugier à Genève. Elle a subi quand même beaucoup d'épreuves. En même temps, elle a toujours surmonté ces épreuves.
Il y a une très très belle photo à la sortie de l'exposition où elle tient votre père sur ses genoux dans son atelier. Et on se dit qu'il devait y avoir un dialogue extraordinaire de la mère artiste avec l'enfant.
Alors ils étaient effectivement en fusion non seulement dans la sculpture, mais pas mal dans la vie aussi.
Oui.
Mais il faut dire qu'au fond, elle était veuve à partir de 1919. Son enfant a un an.
Très tôt veuve.
Et puis son fils va avoir une maladie qui va le laisser hémiplégique. Donc elle va avoir sûrement beaucoup d'inquiétude pour lui. Et puis j'ajouterai enfin que, vous savez, sa mère était sage-femme. Enfin, sa grand-mère était sage-femme plutôt. Et elle était très proche de sa grand-mère. Et probablement le côté maternité.
Oui.
L'a toujours intéressé.
Oui, et ça, les cartels, enfin, sur les murs, l'expliquent très bien dans l'exposition, et on comprend tout à fait, dans cette salle des maternités, qu'il y a vraiment une fibre très très profonde en elle, sur la maternité, sur les maternités. Et d'ailleurs, s'il y a un pluriel, c'est peut-être à cause des maternités de la grand-mère, qui était sage-femme.
Oui, sans doute, oui.
Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça.
Oui, oui, c'est possible. Mais vous savez qu'elle se met à la sculpture d'une manière assez étonnante. C'est qu'un jour, quand elle est venue à Paris apprendre la couture, et puis un jour, avec des amis, elles vont visiter un sculpteur, et elle se moque un peu de lui. Et ce sculpteur lui donne une boule de glaise en disant « Tiens, vas-y, si c'est si facile. » Et la nuit, elle va pétrir toute la nuit cette boule de glaise. Elle va faire un portrait de sa grand-mère. Et elle va revenir le voir le lendemain et va lui dire « Vraiment, il faut que tu continues. » Et donc, effectivement, bah, tout ça se rejoint, en fait.
Alors, elle a un coup de crayon épatant. On voit ça dans quelques vitrines, et notamment ces petits agendas de 1952 et 1949 qui sont entrouverts et qu'on rentre vraiment dans cette intimité-là. Et il y a juste un croquis, mais il est magnifique. Toute l'énergie y est.
En fait, Chanorloff, pour faire une sculpture, faisait avant beaucoup de dessins.
Ouais.
Et après, elle n'avait plus besoin du modèle pour faire la sculpture. Et c'est vrai que ce qu'on voit avec ces dessins, c'est qu'il y a tout le concept déjà dans le dessin. Après, faire la sculpture, c'est plus qu'une question technique, on peut dire. Mais le concept est là.
Il y a trois portraits dessinés, moi je trouve magnifiques. Il y a un visage de Max Jacob. Il y a un visage de Fernand Léger et un de Moïse Kissling qui sont présentés au tout début de l'exposition. Il faut vraiment s'arrêter, faut pas rentrer trop vite dans la salle, c'est sur la gauche en arrivant. Et moi j'ai été saisi par l'autorité du trait, en même temps l'élégance du trait, la précision, c'est quasiment incisé, et on a en peu de choses on a l'impression d'avoir véritablement le visage de Max Jacob en face de nous. C'est extrêmement vivant, et ces trois dessins sont le prélude à la présence des bustes. Donc je pense que sur 500 à peu près œuvres qui sont dans le catalogue raisonné de Chanorloff, il doit y avoir 150 portraits ou quelque chose comme ça.
Oh, il y en a le double en fait, il y en a près de 300.
Et il y en a près de 300, alors, donc c'est vraiment une proportion considérable.
Après, je veux dire, c'est aussi, par exemple la sculpture du peintre Vidov, qui est cet homme avec une pipe dans un grand fauteuil, c'est aussi un portrait. Enfin, il y a beaucoup de portraits qui sont des bustes, en fait.
Et alors, elle a une carrière qui est très longue, et on voit qu'elle a traité le portrait de manière différente, elle est passée par différents styles. Moi, je suis très sensible à la période années 20, années 10, années 20, où elle est vraiment dans la stylisation qui est la marque de l'époque. On n'est pas loin du style art déco, on n'est pas loin du cubisme, mais on sent qu'elle l'effleure, qu'elle est un peu touchée, mais pas du tout comme Zadkine, qui lui va plonger vraiment dedans. Par exemple, on a le portrait de Perret, l'architecte Perret. Auguste Perret, il a une manière de réaliser les traits du visage. On sent toute une géométrie des lignes qu'elle a derrière et qui est vraiment de cette époque-là. Mais elle va, voilà, elle est effleurée. Mais on sent qu'il y a une structure derrière qui est très très sentie géométriquement.
Oui, sans doute. Mais vous savez qu'elle représentait aussi les gens avec beaucoup d'humour et que les critiques d'art de l'époque disaient qu'on voyait la personnalité des gens. Mais une des caractéristiques aussi des portraits, c'est son, enfin, une des inventions qu'elle a eues, c'est le portrait à travers les lunettes, le regard à travers les lunettes, qui est un truc très, très original, qu'elle est en tout cas la première et peut-être la seule à faire.
Ouais, c'est vrai, on voit un des portraits dans la bibliothèque de gauche, j'appelle ça une bibliothèque, mais dans laquelle il y a les bustes. On sait aussi que quand elle faisait poser quelqu'un, elle l'installait dans un fauteuil confortable, elle le mettait à l'aise, il avait un thé ou quelque chose, de manière à ce que la personne se détende et que dans ses croquis, elle puisse saisir quelque chose de la vérité de la personne, une fois détendue.
Oui, voilà, donc c'est une séance de dessin qui durait peut-être 2 heures, et puis au bout de 2 heures... Elle disait à son modèle, vous pouvez rentrer chez vous. Et le lendemain matin, à partir de 5 heures du matin, elle allait faire la sculpture. Mais c'est vrai qu'elle n'avait plus besoin du modèle, et c'est ce qui lui permet aussi d'échapper à une certaine réalité physique, en fait.
Alors en 1915, elle réalise Amazon, qui est ce bronze absolument incroyable, qui est à la fois très, 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 très viril, très guerrier, avec ce cheval qui est très stylisé, qui a juste une patte en l'air, et on sent qu'il a une force énorme dans le collet, au collet et dans la tête. Et puis, cette Amazone qui est à la fois très, très gracieuse, très fine, mais on sent que c'est une œuvre terrible, Stéphane Covio.
Moi, ce qui me frappe, c'est le biface. Le biface, c'est-à-dire la tête. Alors, oui. Elle a réalisé la tête comme ces fameuses pierres taillées néolithiques. Là. Mmh. On a vraiment... Et puis, tout est très stylisé. On est vraiment dans l'époque où règne cette forme de stylisation. Mais il semblerait que la femme, qui sert de modèle, ou pas vraiment de modèle, enfin, en tout cas, qui est évoquée par cette Amazone, est une personnalité connue du Montparnasse de l'époque.
Alors, c'est le portrait symbolique de Miss Barney, qui d'ailleurs vivait en couple avec Roman Brooks et qui avait un temple de l'amitié au 20 rue Jacob et qui tenait un salon tous les vendredis soirs. Et c'est vrai que... Alors Miss Barney, ça va être quelqu'un de très important pour Shanorloff parce qu'elle va l'introduire dans beaucoup de réseaux et finalement elle va trouver beaucoup de clients par son biais en fait.
Mmh. Et il me semble que le sous-titre de l'exposition, c'est le portrait d'une époque.
C'est sculpter l'époque.
Sculpter l'époque.
Alors... Ce titre a été choisi parce qu'en fait, Shanorloff a dit en 1962, je voulais faire l'époque. Mmh. Elle le dit lors d'une interview à Jean-Marie Drault pour les Archives du Montparnasse. Et c'est vrai que non seulement elle ne s'est pas intégrée dans un mouvement artistique, mais aussi elle a représenté finalement tous les artistes importants de cette époque.
Alors il y a une amitié avec Modigliani qui est très présente dans l'exposition. Au tout début, on voit un portrait fait par Modigliani de Shanorloff, un dessin me semble-t-il. Et il y a aussi la statue de Jeanne et Buterne qui est très belle d'ailleurs, cette toute longiligne.
Tout à fait, alors c'est Shanorloff qui avait présenté Jeanne et Buterne à Modigliani.
Ah là là.
Et donc c'est vrai que c'était un cercle très,
très petit. Très petit. Oh bah tout est dans un mouchoir de poche à Paris. C'est-à-dire qu'ils sont entre la rue de Lambre, le boulevard Raspail et la rue Rousselet. Hein,
oui, encore que Modigliani...
Et la rue de Vaugirard, pardon.
À cette époque, habitait dans le 18e, me semble-t-il. Et je crois que mon grand-père, Harry Jussmann, aussi, et donc le mari de Shanorloff, raccompagnait souvent Modigliani à cette époque chez lui.
Alors, il y a un autoportrait qui date de 1940, qui est tout de suite à droite en rentrant dans la première salle, et qui n'est pas grand. Et alors, c'est étonnant, parce qu'on a l'impression, vous savez, de ces petits bustes de Bouddha que l'on trouve sur les temples. Alors, je m'approche, je regarde, je chausse mes lunettes, naturellement, et je zoome, et je vois ce portrait qui est à la fois très, très grave. Alors, est-ce que c'est la date qui fait ça ?
Écoutez, je pense que c'est la date qui fait ça. Vous savez qu'à partir de 1940, elle commence à faire ce qu'elle appelle des sculptures de poche.
Oui.
Petit format qu'on peut éventuellement emporter facilement et vendre facilement aussi. Et elle va faire ses portraits entre 1940 et 1942 inclus. Et d'ailleurs, elle racontera que quand elle est partie dans un premier temps en zone libre... elle a pu vendre quelques portraits comme ça, quelques sculptures.
Cette sculpture est très belle, je trouve.
Alors, après la zone libre, elle part en Suisse.
À Genève.
Oui, tout à fait.
Et là, elle va travailler.
Absolument. Donc, à Genève, des amis vont lui prêter un atelier. Et elle va faire une exposition assez importante en février 1945 à la Galerie Mousse de son travail Genevois. Et ça sera aussi un succès assez important avant de revenir donc, dans sa maison qui sera pillée, dévastée.
Et il faut tout reconstruire.
Oui.
Un passage par les États-Unis ?
Alors, elle a été trois fois aux États-Unis. Oui. Elle était en 1929, 1930.
Et là, c'est...
Puis en 1938 et après à nouveau en 1947.
Et là, c'est un vertige pour elle. Elle est fascinée par les Américains.
Alors, elle a surtout beaucoup aussi d'amis et de collectionneurs américains.
Mais oui.
Et puis même des musées vont lui acheter des pièces importantes. À chaque fois, ses tournées vont durer un an. Hein. Quand elle y va en 1929, elle arrive juste... Elle est partie en bateau, elle arrive juste, je crois, le jour du jeudi noir.
Le jeudi noir de Wall
Street. Et tout le monde lui dit, prenez le bateau dans l'autre sens. Oui. Mais non, elle va rester, elle va s'accrocher. En fait, elle va vendre toutes les sculptures qu'elle avait emmenées avec elle. Donc voilà, c'est assez étonnant.
Et elle est fascinée de la facilité de contact qu'on a aux États-Unis par rapport à la France. Je ne sais plus où elle le dit, où je l'ai lu, mais que c'est beaucoup plus facile. Alors que dans ces années-là, c'était quand même assez compliqué.
Oui, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus.
Bon. Les Américains sont les Américains.
Les Américains sont les
toujours
Américains.
Toujours facile, paraît-il, voilà. D'entrer en relation avec eux. Alors, vous parlez des États-Unis, il y a aussi Israël, puisque après-guerre, elle va davantage fréquenter...
Absolument, elle va très régulièrement en Israël, où elle a d'abord beaucoup de collectionneurs, et puis elle a sa famille qu'elle veut voir, mais où elle a aussi... elle reçoit la commande d'une dizaine de monuments à réaliser. Donc, pour elle, ça va être quelque chose d'important. Et puis, je crois qu'Israël, dans l'après-guerre, correspond à un certain espoir pour tous ces gens qui sont passés par l'exil et par la connaissance de la Shoah. Mmh.
Et là, elle va avoir des commandes d'œuvres monumentales.
Alors, une sculpture de David Ben-Gurion, le monument des héros dédié aux défenseurs d'Engave, le monument de la maternité en mémoire de Shana Tukman, qui était morte pendant la guerre d'indépendance d'Israël. Donc, des monuments très, très importants.
Très importants, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense notamment au monument Engave, à cette grande maternité, en fait, où au départ, on lui demande de faire un monument pour, rendre hommage aux femmes combattantes du kibbutz, mais plutôt que représenter une femme avec un fusil, elle va faire une grande maternité en disant, au fond, les femmes se battaient pour leurs enfants. Et je trouve que c'est assez beau, en fait, comme symbole. Quoi.
Magnifique.
Oui.
Et c'est une œuvre...
Alors, c'est une œuvre qui fait, en gros, 3 mètres de haut. Hein,
ah oui.
Qui est, d'ailleurs, qu'on peut voir. On peut voir le plâtre au musée Zadkine, aujourd'hui, dans l'atelier... qui est au fond du jardin.
Et où est le plâtre ? Je me posais la question en le voyant tout à l'heure en situation habituelle. Il est à l'atelier
Il est à Sera. L'atelier, oui. Non, il est chez Zadkine, le plâtre de cette...
Oui, mais en dehors
quand de il est pas... Il est Villa Sera, oui.
Ah, ouais. D'accord. C'est amusant, j'avais l'impression de ne jamais l'avoir vu et de le découvrir pour la première fois, alors qu'il occupe un espace considérable.
Elle meurt le 16 décembre 1968 à Tel Aviv. Elle est enterrée là-bas, je crois.
Tout à fait.
Et de ces, finalement, ce qui reste ici à Paris, c'est son atelier maison et vous qui le gardez et qui l'ouvrez.
Absolument. Donc, et avec ma sœur, hein, Ariane Tamir, on fait visiter régulièrement ce lieu. Et puis, on s'occupe aussi de gérer les archives et puis d'avoir un certain nombre de contacts avec des musées.
Qui a fait le catalogue raisonné ?
Alors, le catalogue raisonné a été fait par Mme Coutard-Salmon en 1980. Et puis, par la suite, est sorti un livre assez important de Félix Marcillac, qui est aujourd'hui l'ouvrage de référence et qui se réfère à ce catalogue raisonné, en fait. Peut-être je peux rajouter une chose
oui,
avant de
sûr.
Terminer l'émission.
Bien sûr, vous avez 30 secondes.
Je souhaiterais qu'il y a deux podcasts aussi qui sont sortis, qui ont été réalisés par le ministère de la Culture, dans une série qui s'appelle « À la trace ». Et c'est deux hors-série sur Chana Orloff. Un qui concerne spécifiquement l'enfant Didi, disparu en 1943, et l'autre qui concerne plus la vie de Jeanne Orloff et les spoliations qu'elle a subies.
C'est à écouter, et en tout cas, dans l'exposition, on peut la voir, puisqu'il y a un film dans l'atelier où elle parle, elle raconte et on la voit forcément très vivante. C'est à découvrir jusqu'au 31 mars 2024, l'exposition Jeanne Orloff, Sculpter l'époque. Et c'est du mardi au dimanche de 10h à 18h, la dernière entrée étant à 17h20. Le droit d'entrée au musée, c'est pas cher, c'est 9 euros pour tarif plein, tarif réduit 7 euros pour les moins de 18 ans. Merci beaucoup Eric Jussmann, je rappelle quand même l'adresse du musée 100 bis rue d'Assas dans le 6e. Merci beaucoup Eric, merci Stéphane Covio, merci Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de l'émission. Demain, nous retournons à la procure pour d'autres idées de cadeaux. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.